venez de l'entendre, Anne de Biran vous l'a dit dans cette journée spéciale France Inventaire avant élection que vous propose France Culture depuis ce matin. Nous allons parler ici de la façon dont nos usages d'Internet et notamment des réseaux sociaux modifient notre rapport à la politique. À moins que ce ne soit ces mêmes réseaux et autres moteurs de recherche qui délibérément nous conduisent à amender nos opinions, à nous faire évoluer dans un univers de pensée commune, voire unique, dans des cercles où tout le monde partage peu ou prou les mêmes avis, où la diversité peu à peu s'effrite, le tout avec notre consentement plein et entier. Les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple vont-ils nous faire voter? C'est la question que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Mais avant de nous plonger dans l'univers du tracking électoral, de l'algorithme roi et de la propagande ciblée, un vendredi ne serait pas tout à fait un vendredi dans la méthode scientifique sans l'indispensable journal des sciences du non moins indispensable Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Nicolas.
Le journal des sciences.
Et pour commencer par une date qui va marquer l'histoire de la conquête spatiale européenne, c'était hier la mise en service du système Galileo, Xavier.
Et le début même de l'indépendance de l'Europe pour sa géolocalisation avec ses 15 satellites en orbite autour de la Terre pour un système globalement comparable au GPS américain mais européen. Il proposera 5 services, un grand public gratuit pour la navigation, un pour le sauvetage grâce à une balise ou un à disposition des États membres pour la police ou les pompiers. Comme le GPS, donc, ce seront 30 satellites d'ici 2020, en fait une véritable constellation située à 23 000 km de la Terre, avec deux avantages pour l'Union européenne. Cette fois, d'abord, elle prend la main sur ses données et ses services, un vieil objectif, et aussi avec un matériel plus précis, une précision jusqu'à 1 mètre. Alors même s'il reste encore la moitié des satellites à lancer et que la pression financière est réelle, le programme coûte 10 milliards d'euros, Paul Verhoeven, qui est le directeur des programmes Galileo et Navigation à l'ESA, reste très confiant.
On a besoin pour le service initiaux que de 9 satellites, donc ça veut dire qu'avec 18, on a déjà une bonne marge. Dans le futur où on va vers, par exemple, deux voitures automatiques et tout ça, bien sûr, une différence d'une mètre, ça suffira pas. Donc on aura besoin autour du globe d'une infrastructure de navigation par satellite qui va être très importante. On va faire des recherches pour le futur. Je crois que tout le monde est au courant que quand même ces systèmes sont relativement chers, autant que ça justifie le coût vu les intérêts économiques qui sont derrière. Mais bien sûr, de notre côté, on est très content avec le progrès. On est maintenant en pleine croissance, c'est-à-dire on délivre 6 satellites en orbite chaque année, qui est pas trop mal du tout. Et avec la prochaine lancement Ariane 5 qui va délivrer 4 satellites, on sera déjà à 22 et ça c'est déjà très proche de constellation finale. Donc in fine, on est très bien en route.
Voilà, mais Galileo arrive, Xavier, dans un paysage mondial de géolocalisation qui commence à se charger.
Il se charge bien, puisqu'outre le GPS américain vocation mondiale, certains pays ont développé leur propre GPS continental. En 2016, par exemple, les lancements ont continué pour les satellites de GLONASS, le système russe, pour Beidou, le GPS chinois, et puis du côté de l'Inde, c'est l'IRNSS, nécessité stratégique, donc réduire la dépendance technologique, c'est important pour les forces armées, mais aussi nécessité commerciale. Là, il faudra pouvoir, pour l'Europe, concurrencer en quelque sorte la marque GPS avec des services innovants, même si le service reste interopérable, comme on dit, avec le GPS américain. Mais en tout cas, c'est d'abord une bataille technologique de l'Union européenne avec elle-même plutôt que face aux autres. Écoutez, Isabelle Sourbès-Verger, elle est spécialiste des politiques spatiales au centre Alexandre Coiré.
La question de l'autonomie stratégique, elle est vraiment technologique. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable en Europe de maîtriser des technologies du futur qui vont être intégrées dans une gamme d'applications absolument extraordinaires? On parle par exemple de l'utilisation un jour des systèmes de navigation par satellite pour le décollage et l'atterrissage des avions. Il est bien évident que si vous n'avez pas votre propre système, vos propres balises et que vous ne maîtrisiez pas le système, parce que la question elle est là, vous allez vous retrouver dans une situation de concurrence concurrence sur la vente d'Airbus par rapport à Boeing dans une situation de fragilité pour les clients extérieurs. C'est là que le stratégique, il est peut-être encore plus crucial que dans le domaine militaire. Et c'est tellement vrai que si vous regardez, la remise à niveau du système GLONASS a été une priorité du président Poutine très tôt, hein, dès les années 2000. Il y est parvenu à partir de 2006 et c'était opérationnel en 2010. Et c'est aussi pour ça que les Chinois n'ont pas imaginé de ne pas avoir leur système, que les Indiens pensent à développer le leur et que même les Japonais qui sont, je dirais, contraints par les accords de coopération avec les États-Unis envisagent quand même aussi d'avoir des compléments au système GPS qui soit 100% japonais.
En bref, le Japon vient d'envoyer d'ailleurs un vaisseau vers la station spatiale internationale, un vaisseau qui est muni d'un dispositif anti-déchets spatiaux, Xavier.
Oui, une véritable innovation pour ce vaisseau de ravitaillement HTV-6. Donc il s'est amarré à la station spatiale pour y apporter d'abord 4,5 tonnes de matériel, mais aussi avec lui un système expérimental de nettoyage des déchets spatiaux qu'il testera lui-même et sur lui-même. C'est un câble de 700 mètres environ, parcouru d'un courant électrique qui devrait en fait le ralentir en vertu des forces électromagnétiques qui s'appliqueront sur lui. Il l'attirera ainsi progressivement vers la Terre. Il pourrait donc équiper ce système les prochains satellites qui se nettoieraient tout seuls en se désintégrant dans l'atmosphère.
Sur Terre, des scientifiques alertent sur les risques d'épuisement mondial en eau d'ici 2050.
En effet, l'Inde, l'Australie, l'Argentine ou le sud de l'Europe, mais aussi la Californie, ce sont certaines des zones citées hier lors de la conférence annuelle de l'American Geophysical Union, ces zones aquifères qui pourraient être en pénurie d'ici 2030-2040 et épuisées d'ici 2050, selon l'ONU. En 2014, c'était 20% des réserves mondiales qui étaient surexploitées.
L'Organisation mondiale de la santé alerte sur son manque de financement pour lutter contre le paludisme.
Et même un besoin urgent en financement, écrit l'OMS dans son rapport 2015, mardi dernier. Même si le Sri Lanka a vaincu la maladie cette année et que la prévention s'améliore en Afrique subsaharienne, les moustiques deviennent aussi plus résistants, par exemple en Asie du Sud-Est. Et puis les financements ont stagné depuis 2010. 43% de la population des zones à risque reste sans protection.
Deuxième sujet de cette semaine, une découverte française qui pourrait changer la médecine. Selon des biologistes et des médecins, on aurait trouvé une alternative à la bonne vieille morphine, Xavier.
Une alternative qui marche, c'est l'opiorphine, une molécule découverte à l'Institut Pasteur en 2003 et qui atténuerait aussi efficacement la douleur que la morphine utilisée, je le rappelle, depuis le 19e siècle. Elle l'atténuerait même mieux, selon les dernières recherches publiées dans la revue Anesthesiology, avec cette forme stable de l'opiorphine STR-324, aussi efficace pour des doses 3 à 6 fois moindres et surtout sans les effets secondaires parfois mortels de la morphine. La découverte de cette molécule dans la salive de rat puis d'humain est elle-même étonnante, mais son mode d'action l'est tout autant. Tout tient à lui en fait. Pour inhiber la douleur, en fait, vous savez que les neurones produisent des molécules qu'on appelle les encéphalines et qui empêchent la transmission du message douloureux. La morphine, elle simule la présence de ces encéphalines, mais elle est violente, un peu aveugle, comme un bombardement. Au contraire, pour l'opiorphine, c'est un peu la méthode douce. C'est les explications du médecin anesthésiste à l'Institut Gustave Roussy. Philippe Sidbon, c'est le principal auteur de l'étude.
L'avantage donc de l'opiorphine, c'est qu'en fait, c'est uniquement si vous avez de la douleur quelque part, qu'au niveau de ces voies de la douleur, il va y avoir l'efficacité du médicament. C'est-à-dire qu'en fait, le médicament, il n'agit nulle part ailleurs. Et donc, il n'a pas d'autres effets secondaires à ce jour démontrés. J'aime bien reprendre cet exemple. Quand vous avez un animal qui se blesse, il va souvent se lécher sa blessure, parce qu'en fait, on a en nous tous une grande quantité d'opiorphine dans la salive. Bon, en fait, c'est un petit peu ça qui va se passer. On va un petit peu saturer les endroits de la douleur, donc ça passe par les nerfs, la moelle épinière et ça remonte jusqu'au cerveau. On va les saturer un petit peu avec les encéphalines naturelles puisqu'elles vont arrêter d'être dégradées, là où elles sont exprimées, donc là où il y a douleur, donc vraiment sur les voies de la douleur uniquement. La grosse étape, ça va être chez l'humain, c'est-à-dire voir s'il n'y a pas de toxicité chez l'homme, mais a priori, comme c'est une substance naturelle, on ne s'attend pas à de la toxicité, hein, contrairement à des médicaments qui essayent de jouer par les mêmes mécanismes. On est relativement optimiste. Après, donc, faudra voir la puissance de cette substance chez l'homme. Là, nous, on trouve un effet qui est relativement puissant, comparable à la morphine. Donc, on va voir chez l'homme si ce sera la même chose. Mais normalement, comme c'est une molécule qui est active, qui est présente chez l'homme, et que nous, on l'a testée chez l'animal, on pourrait même penser que chez l'homme, elle a encore plus d'affinité, c'est-à-dire qu'elle est encore plus active.
Et voilà, donc justement, essai sur l'homme pour l'opiorphine en 2017, à terme un médicament, peut-être en tout cas plus coûteux que la morphine, prévient Philippe Sidban.
En bref, maintenant deux affaires judiciaires. La première en France, le laboratoire Sanofi, visé par une plainte au sujet de la dépakine.
En effet, 14 familles membres de l'APESAC, l'association des parents d'enfants victimes de la dépakine, ont envoyé une lettre au laboratoire fabricant des anti-épileptiques responsables, entre autres, de graves malformations sur les nouveau-nés. C'est une démarche qui est une première action de groupe du genre en France et qui survient un mois après le vote de l'Assemblée nationale sur un fonds d'indemnisation des victimes.
Le deuxième procès, c'est aux États-Unis à propos du brevet d'invention du CRISPR-Cas9, cette nouvelle technique d'ingénierie génétique de l'ADN.
Oui, et cette fois, les juges de la ville d'Alexandria, où se trouve le bureau américain des brevets, devront trancher sur une question scientifique qui a permis en fait l'avancée décisive concernant ces fameux ciseaux génétiques. Est-ce ou sont-ce la française Emmanuelle Charpentier et sa collègue de Berkeley, Jennifer Doudna, qui ont publié leurs travaux en mai 2012, ou bien est-ce Feng Chang, un chercheur de Harvard, qui a également mis au point la même enzyme coupeuse et publié en décembre 2012, lui, son étude. La différence, c'est que les deux découvreuses ont travaillé sur des cellules de bactéries sans noyau, Feng Chang sur des eucaryotes avec noyau. Question scientifique, milliard à la clé et décision d'ici février.
Et pour finir par la rubrique de science improbable, comme chaque semaine, un enfer de saphir et de rubis. Ça n'est pas des courses de Noël chez un joaillier, mais c'est une exoplanète, Xavier.
Très loin d'ici, à plus de 1000 années-lumière, c'est Kepler 2b, exoplanète découverte en 2008 et sur laquelle des chercheurs de l'université de Warwick ont émis une hypothèse assez extraordinaire. En effet, ces vents sont potentiellement plus chargés que les rois mages en pierres précieuses, saphir et rubis. En fait, ce sont des vapeurs qui contiennent ces particules. Pourquoi ? Pour trois raisons. D'abord, c'est une planète géante gazeuse. Ensuite, elle est très proche de son soleil, donc très chaude, autour de 2400 degrés. Et elle lui présente toujours la même face. En fait, imaginez Jupiter en bien pire. Sur une face, c'est un trou de l'enfer. Tout est en fusion, ébullition ou vaporisation. Sur l'autre, la nuit éternelle, mais brûlante aussi. Ce sont plutôt des phénomènes de condensation. Très certainement de condensation du corindon, un minéral à la base du rubis et de saphir, et qui formerait donc des nuages venant se dissiper dans l'atmosphère sur cette fameuse face de l'enfer. Planète trésor, donc peut-être, il vaut mieux s'en tenir très loin, conclut un des physiciens, même si les couleurs de ces nuages, ajoute-t-il, doivent être chatoyantes.
Merci beaucoup Xavier, on vous retrouve non pas vendredi prochain, mais dès lundi, puisque c'est vous qui prenez le relais de la méthode scientifique pour la semaine prochaine.
Avec plaisir, merci.
À lundi.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Je vais donc commencer à traiter le sujet du jour en vous rappelant, comme à chaque début d'émission, que vous pouvez suivre l'émission en direct sur le fil Twitter de la méthode scientifique via le compte @laméthodefc où Noémie Naguet poste chaque jour des informations complémentaires aux propos qui se tiennent au micro et qui vous permettent d'aller plus loin ou d'illustrer le débat qui se déroule à l'antenne. Ceci étant dit, si vous avez une appétence pour les sciences, votre fil Twitter vous propose certainement, naturellement, déjà les tweets que nous postons quotidiennement, parce que Twitter, comme Facebook d'ailleurs, utilise désormais un algorithme pour sélectionner les informations qui vous correspondent le plus. Eh bien, en politique, c'est pareil. Chaque nouvelle élection le montre de façon flagrante. La dernière en date, l'élection américaine ayant poussé à un degré jamais atteint le ciblage électoral. Ciblage qui a d'ailleurs fini par troubler les démocrates qui n'ont pas vu venir l'élection de Donald Trump, et pour cause, les informations le concernant ont tout simplement disparu de leurs différents fils d'actualité du fait de ces mêmes algorithmes. Mais c'est ce dont nous allons parler au cours de cette heure, entre autres. Il sera question également de l'utilisation du big data dans les campagnes électorales pour assister les militants ou pour cibler les électeurs indécis. Et vous allez voir que la France est tout à fait à la pointe dans ce domaine. Pour en parler, nous avons donc le plaisir d'accueillir Christine Balaguet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ex-vice-présidente du Conseil du numérique et titulaire de la chaire réseaux sociaux à l'Institut Mines Télécom TEM. Et puis nous accueillons également Benjamin Bayard. Bonjour.
Bonjour.
Président de la Fédération des FAI associatifs et cofondateur de la Quadrature du Net. Alors, pour commencer, pensez-vous l'un et l'autre que nos usages d'Internet, les réseaux sociaux et les GAFA ont modifié profondément le rapport des citoyens à la politique, Christine Balaguet ?
Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a cinq grandes modifications instaurées par les réseaux sociaux dans ce changement entre le citoyen et le politique. Le premier, c'est que on est sur les marchés de la conversation, c'est-à-dire le sujet politique devient un sujet de discussion entre les individus, et donc sujet entraîne discussion, entraîne buzz positif, entraîne buzz négatif et débat sur ces plateformes. Donc on est dans des mécanismes viraux, on est dans des rumeurs qui se créent, positives, négatives, fausses ou vraies, mais en tout cas, on est dans ces marchés de la conversation. Le deuxième critère, c'est le critère de la prise de parole des politiques. On a une relation aux politiques via les réseaux qui s'est transformée. On peut interpeller des ministres sur Twitter, on peut leurs équipes peuvent répondre. Mais en tout cas, on a cette relation citoyen-politique qui a été profondément modifiée par les réseaux. Le troisième critère, c'est plus profond, c'est la manière dont les gens sont influencés par ces réseaux et l'influence pair à pair. On sait bien, c'est les travaux d'Aral, c'est les travaux de Pentland aux États-Unis qui montrent qu'on est beaucoup plus influencé par ce que nous disent nos pairs que des institutions, que des politiques au sens large, que des scientifiques.
Que des médias.
Et donc, que des médias. Et donc, cette influence pose un problème et va influencer donc le citoyen également dans ses votes. Quatrième critère, c'est la mobilisation que permettent les réseaux, en particulier Facebook, sur un certain nombre d'élections. Par exemple, à Hong Kong, aux États-Unis, ils ont créé une fonctionnalité de voteurs mégaphones, hein, où en fait, ils ont, le jour de l'élection, poussé les gens à partager sur le réseau le fait qu'ils avaient voté. Et même Facebook a annoncé que ça avait amené 340 000 utilisateurs de Facebook à voter aux États-Unis, et donc une modification du taux des votants. Mais je crois que le plus grand impact vient non pas des critères que je viens d'évoquer, mais évidemment des algorithmes. Et ça, c'est le sujet majeur, je crois, qu'il faut traiter aujourd'hui. C'est la manière dont ces réseaux filtrent l'information, puisque le métier de Facebook et de Twitter, c'est de filtrer l'information. Et donc, c'est ce filtrage de l'information entraîne, je dirais, une modification de la manière dont l'information nous est présentée. Il se pose la question donc de la neutralité des algorithmes de ces réseaux, de la transparence de ces algorithmes, qui impactent évidemment nos vies quotidiennes de citoyens et nos votes.
Benjamin Bayard, à votre avis, qu'est-ce qui a été changé le plus en profondeur dans notre rapport à la politique par les usages que nous faisons aujourd'hui des réseaux sociaux en particulier, mais d'Internet en général ?
Sur l'usage des réseaux sociaux, je vois pas grand-chose de très neuf. Il y a des choses, évidemment, ça a des effets. Pour moi, l'effet majeur est celui d'Internet qui change la façon dont les gens communiquent entre eux. C'est-à-dire que les phénomènes anciens, typiquement le fait de discuter avec ses proches des sujets politiques, ça se faisait autour de la dinde de Noël, ça se faisait au café du commerce, ça se faisait à la machine à café au boulot. Maintenant, ça se fait dans d'autres cercles plus larges et plus homogène. C'est-à-dire que à la machine à café au boulot, je croise les gens qui font pas le même métier que moi. Moi, je suis ingénieur, je croise des commerciaux. Mmh. On peut se mélanger un peu.
Et qui n'ont pas les mêmes opinions aussi.
Et qui n'ont pas les mêmes opinions, du coup, parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes pratiques. Sur les réseaux sociaux, c'est très différent. Spontanément, je vais suivre des gens avec lesquels je suis d'accord. C'est-à-dire que même sans imaginer qu'il y a un algorithme qui filtre selon tel ou tel critère, moi, tout seul, spontanément, je vais aller suivre les gens avec lesquels je suis d'accord et qui donc me renforcent dans mon opinion et ne m'amène jamais ni contradiction, ni éléments complémentaires, ni information.
Alors, on a beaucoup entendu ce biais-là, ce biais de confirmation, qui est un biais classique. Pour autant, me semble-t-il, on a toujours tendance, naturellement, à se regrouper dans des cercles d'amis, y compris à l'intérieur de cercles préexistants comme les cercles familiaux ou les cercles professionnels, avec des gens qui, peu ou prou, partagent la même nébuleuse d'opinions. Donc, en quoi les réseaux sociaux ont vraiment renforcer ou changer ça, à votre avis?
Ils permettent en fait d'épurer. C'est-à-dire que au Noël familial, dans une famille qui est globalement de droite, vous pouvez rien au fait qu'il y a le tonton trotskiste. Et réciproquement, ça marche dans les deux sens. Au boulot, il y a un certain mélange auquel vous ne pouvez rien. Vous pouvez pas virer les collègues qui sont pas d'accord avec vous, et donc vous discutez avec eux. Vous êtes d'accord, vous êtes pas d'accord, vous écoutez patiemment, mais vous les entendez. Sur Twitter ou sur Facebook, vous ne les entendez plus. Et ça, c'est très différent. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans un milieu extraordinairement homogène et où vous pouvez perdre conscience de l'existence du reste. Ça, c'est un effet qui est relativement dangereux.
ce qui s'est passé avec Trump et avec le Brexit, notamment dans les deux sens.
Oui, mais c'est pas si nouveau que ça. Je veux dire que si on reprend le traité sur la Constitution européenne, tout le monde nous disait que c'était les médias qui forgeaient l'opinion. Les médias étaient unanimement pour et l'opinion a voté contre. Donc c'est plus fin que ça. Mais on arrive à créer sur les réseaux sociaux des milieux extrêmement homogènes et qui donnent une vision très bizarre du monde.
Christine Malaguier.
Moi, je crois qu'il y a une profonde différence quand vous dites ça existait dans nos cercles d'amis, dans la famille, etc. Ça, c'est le choix de l'individu qui choisit de discuter avec un tel dans sa vie professionnelle, qui discute avec sa famille sur un certain nombre de sujets. C'est un choix de l'individu. La grosse différence avec l'Internet et les réseaux sociaux, c'est que ce choix nous est imposé et qu'il n'est pas transparent. Et donc, on a un filtrage de l'information qui fait que effectivement, on est dans cette stratégie de ce qu'on appelle la bulle filtrante,
et
l'enfermement. C'est-à-dire que, effectivement, le métier de Facebook, c'est de filtrer l'information, puisque, par définition, sur un mur Facebook, on ne peut pas avoir toutes les informations de tout ce que nous disent nos amis ou les médias que l'on suit. Et donc, Facebook va filtrer cette information. Donc, c'est quand même ce fameux algorithme qu'on appelle le EdgeRank, dont on ne connaît pas le poids des critères. Et donc, il y a derrière la notion d'algorithme un premier problème qui est le fait que l'algorithme a un jugement de valeur. Et c'est vrai pour Facebook, c'est vrai pour Google. Et donc, ce jugement de valeur, c'est le poids qui est mis à chacun des critères. Et ce poids, on ne le connaît pas. C'est-à-dire que on ne sait pas comment Facebook filtre l'information. Et ce que l'on sait, par rétro-ingénierie que l'on fait auprès d'utilisateurs, c'est qu'effectivement, il y a un biais d'information. C'est-à-dire, plus on est dans, effectivement, un entourage qui partage des opinions, et plus on s'enferme dans cette opinion, ça s'est vu avec Trump, ça s'est vu avec Hillary Clinton. Le deuxième point que je voulais évoquer quand même, c'est que il faut quand même comprendre aussi le mécanisme de ces réseaux, et en particulier le mécanisme de Facebook. Facebook a un impact viral extrêmement fort, et on sait très bien, c'est les travaux de Berger par exemple à NYU, qui disent quels sont les contenus qui se viralisent ou pas. On sait que les contenus qui se viralisent, ce sont des contenus à émotion positive ou négative, surtout pas neutre, et des contenus qui sont étonnants ou choquants. On sait bien que, par exemple, pendant la campagne américaine, les contenus autour de Trump se sont beaucoup plus viralisés que d'autres, parce que c'est le mécanisme même de Facebook. On sait que les gens appuient sur share, appuient sur like,
partager,
etc.
Partager, aimer.
donc, ils partagent. On est dans cette ère du massive information sharing. On partage ce qui est à émotion forte et ce qui est dérangeant. Et donc, produire de l'information, utiliser Facebook, ce qu'a fait Trump, utiliser Facebook en ciblant, en envoyant des vidéos avec du contenu qui sera viralisé, a effectivement un impact en termes électoraux.
Mais alors, je vais continuer un peu à faire l'avocat du diable sur cette question-là. Je me demande, et je me suis demandé en préparant cette émission, si on n'avait pas tendance à suramplifier ce phénomène. Vous venez de dire, par exemple, que effectivement, les vidéos de Donald Trump avaient été extrêmement viralisées. On les a vues, elles ont été partagées, alors certainement parfois accompagnées, reprises, détournées, mais malgré tout, l'effet de viralisation a fonctionné, donc elles ont atteint et elles ont manifestement convaincu. Donc ça veut dire que, est-ce que ça veut simplement dire que Donald Trump a mieux compris le fonctionnement et la viralisation de ses réseaux? Est-ce que ça ne met pas un peu en défaut cette idée de suppression complète des fils d'information via les algorithmes de l'opinion contraire ou de l'opinion inverse, Benjamin Bayard?
Je suis pas très convaincu par cette approche-là, parce qu'elle suppose que les gens sont bêtes et passifs. Et je trouve que c'est toujours très dangereux comme hypothèse. Ça a été plus vu, oui, ça veut pas forcément dire que ça a convaincu. Ça a eu un effet sans doute, ça peut pas ne pas avoir d'effet, mais je suis pas du tout sûr que ça suffise à convaincre. En revanche, que dans une période de grande crise économique et de grande incertitude sociale, les électeurs votent contre la candidate qui a l'air d'être celle issue des grandes familles bourgeoises, pour celui qui a l'air de déranger, il y a des grilles de lecture politique derrière qui me semblent au moins aussi pertinentes que les histoires sur Facebook. Le côté embêtant dans le fonctionnement des algorithmes et dans le filtrage de l'information sur les réseaux sociaux, pour moi, est pas tellement à cet endroit-là. Il est dans la perte, non pas des grands signaux, j'ai à savoir qu'il y avait Clinton et qu'il y avait Trump dans les candidats possibles, je pense que tous les citoyens américains étaient au courant. Il est dans la perte de tous les signaux faibles autour. Typiquement, un article de fond qui explique le programme électoral de tel ou tel candidat ne fait pas de bruit et n'est pas vu, alors qu'une vidéo choquante fait énormément de bruit et énormément vue. Donc c'est pas tellement le fait qu'elle soit vue qui est embêtant, parce que ça c'est juste drôle, c'est le fait qu'elle masque des choses et qu'elle, en fait, elle réduit la quantité d'informations complexe qui arrive aux gens. Ça, c'est embêtant. Pour moi, ça, c'est un effet de l'enfermement. Mais c'est le même effet d'enfermement qu'on a dans les médias. Les journalistes, entre eux, à Paris, vivent dans une petite bulle relativement fermée. Ils sont assez peu au contact du reste de la société et ils ont tendance à se faire des opinions très, très vite et très facilement et qui sont pas forcément le reflet de leurs auditeurs ou de leurs lecteurs.
Donc ces bulles-là, et ça m'amène à ce que je voulais vous dire par la suite, ces bulles-là existent déjà. Cette bulle médiatique, on voit, elle a été critiquée. D'ailleurs, c'est le fonds de commerce d'un certain nombre de candidats ici en France et ailleurs. Trump s'en est pris à plusieurs reprises aux médias en les accusant de déformer ses propos ou de le diaboliser. Ça n'a pas fonctionné. Et puis, pour revenir à une pratique vieille comme le monde, enfin, on a toujours eu accès préférentiellement aux médias desquels on se sentait le plus proche en termes d'opinion. On sait que, pour parler de la presse écrite, pour dire vraiment la plus grande des banalités, les électeurs de centre-gauche lisent plutôt Libération, les électeurs communistes lisent plutôt l'Humanité, les électeurs de droite lisent plutôt le Figaro. Donc, est-ce qu'on ne surestime pas, une fois de plus, cette notion de bulle filtrante, à votre avis, Christine Balaguer?
Alors, première chose que je voulais dire, c'est que j'ai relu récemment un ouvrage qui s'appelle Propagande de Bernays, qui date de 1929. Donc, Propagande, c'est le titre, et c'est comment manipuler l'opinion en démocratie. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est pas nouveau, ce phénomène. Et on sait bien que les techniques de manipulation de l'opinion existent. On peut se demander aussi si aujourd'hui les médias traditionnels, de par la manière dont ils présentent l'information, de par la manière dont ils traitent l'information, n'influencent pas les lecteurs. Donc, pourquoi se poser la question de Facebook. Voilà. C'est beaucoup plus général que ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur la question de l'algorithme, je voudrais citer un autre exemple qui n'est pas Facebook, parce qu'il n'y a pas que Facebook qui a manipulé ou qui serait accusé de manipulation. Je vais parler de Google. Il y a un article de recherche qui est sorti récemment, en 2007, d'Epstein, qui a fait une expérimentation tout à fait scientifique, qui a pris trois groupes d'individus auxquels il a demandé, donc je crois qu'il y avait 4500 participants. Il a demandé quelles étaient les opinions politiques sur trois candidats en termes d'intention de vote avant l'expérimentation. Et puis ensuite, il a fait trois groupes. Un premier groupe dans lequel il a filtré l'information en mettant avant le premier candidat, le candidat A. Un deuxième groupe dans lequel, à partir de 30 recherches, le candidat B était mis en avant. Et enfin, un troisième groupe dans lequel le candidat C était mis en avant dans le filtrage de l'information. Et il a reposé à la fin de cette expérimentation un questionnaire sur les intentions de vote. Et ce qu'il montre, c'est que les intentions de vote peuvent bouger de l'ordre de 20%, entre 20 et 60%, uniquement dans la manière dont on présente l'information.
Dont elle apparaît, c'est-à-dire dans la manière dont elle est référencée, les informations qui apparaissent en premier.
Voilà, la question n'est pas la question uniquement de l'enfermement, mais la question est la question du filtrage, encore une fois, de ce qui nous est présenté. Et le seul problème de ça, c'est que ça n'est pas transparent. Ça serait transparent. On a contribué, on a essayé au Conseil national du numérique de réfléchir à la question de la transparence des informations. Il y a une loi qui s'appelle la loi pour une république numérique qui a été votée, qui est maintenant depuis le 8 octobre, dans lequel apparaît cette notion de transparence des traitements et de transparence des algorithmes. Hier est sorti également un rapport du ministère des Finances et de Bercy sur des modalités de régulation des algorithmes. Donc ce sujet est absolument actuel et la question de la régulation, de la demande de transparence de ces algorithmes est quelque chose de très actuel.
Pour terminer sur cette partie-là, parce qu'effectivement, j'aimerais qu'on parle du big data et de la quantité de données aujourd'hui accessibles aux différents analystes, aux différentes start-up et, in fine, aux différents partis. Facebook a été accusé par un site, Gizmodo, d'avoir influencé le scrutin américain. Mark Zuckerberg a pris position de manière très nette, publique, contre Donald Trump a été élu. Est-ce qu'encore une fois, on n'accorde pas trop de pouvoir à ces bulles filtrantes et à ces réseaux sociaux pour voir que finalement, les résultats échappent à ce type de prédiction, Benjamin Bayard?
Moi, j'ai l'impression que... Alors d'abord, il y a une surévaluation de l'effet des réseaux sociaux. Ça, c'est un bon moyen. En fait, c'est un bouc émissaire. C'est-à-dire que les médias n'ont pas compris ce qui se passait. Il leur faut un accusé. Celui-là est pratique. il marche bien. Il y a un vrai effet cependant, mais je soupçonne que l'effet soit beaucoup plus profond que le choix d'un candidat à une élection présidentielle. Typiquement, la bulle filtrante, elle a un effet beaucoup plus pernicieux et beaucoup moins compréhensible quand on est dans les sujets personnels, quand on n'est pas sur des grands sujets politiques. Et ça, c'est assez embêtant parce que c'est plus compliqué à analyser, c'est plus compliqué à voir. Le fait de vivre dans un milieu, enfin de vivre au sens intellectuel, dans un milieu plus homogène, plus lisse, où il n'y a plus d'aspérité, où il n'y a plus de contradictions, c'est un vrai souci. Et ça, je soupçonne que ça ait des effets de plus long terme que juste le fait de faire basculer ou pas un candidat. J'ai pas l'impression que Facebook ait eu une intention électorale, et s'il y en avait une, c'était de faire perdre Trump, et ils ont échoué. Donc ils sont pas aussi puissants que ça. Mais la bulle elle-même a un effet, ça c'est presque certain.
Christine Balaguer, vous partagez le point de vue de Benjamin Bayard ?
Pas tout à fait, parce que je reviens sur qu'est-ce que c'est qu'un réseau social. Et un réseau social, par définition, joue sur des effets de réseau. Et donc, il y a quand même un risque à avoir une très très forte audience sur ces réseaux et quelque part avoir des systèmes non transparents, encore une fois, sur ces réseaux. Par définition, un effet de réseau, c'est l'utilité d'un réseau dépend du carré du nombre de ses utilisateurs. Et donc, un réseau social déjà important va le devenir encore plus parce qu'on a plutôt intérêt à être sur ce réseau qu'un autre. Et donc, le pouvoir de ces réseaux ne fait que s'accroître par ce mécanisme d'effet de réseau. Et c'est ennuyeux, me semble-t-il, d'un point de vue démocratique, que d'avoir des systèmes non transparents dont on se pose la question de l'impact sur l'opinion. Alors, moi, mon propos, c'est de dire, et c'est tout en courant de recherche aujourd'hui, il se trouve que je fais partie de la CERNA, qui est le comité d'éthique de la recherche sur le digital. On est un groupe de chercheurs, sciences dures, sciences de gestion, philosophes, etc. Et on réfléchit sur l'éthique de ces technologies. Et donc, ce dont on parle là, c'est des questions d'éthique. On ne sait pas, effectivement, on peut en débattre pendant des jours. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc, il faut le prouver. Et ce qu'on essaie de faire dans ce collectif, c'est d'essayer de voir comment on peut réfléchir à des méthodologies qui sont des méthodologies qui permettent de tester la qualité de ces algorithmes et tester les effets. Le papier dont je parlais tout à l'heure d'Epstein a quand même montré que Google avait un impact.
Il y a
un certain nombre de technologies aujourd'hui développées à Berkeley, développées aux États-Unis. Hier a été annoncé le lancement d'une plateforme également initiée par l'INRIA. C'est une plateforme de chercheurs qui, en France, vont travailler à développer des technologies qui vont permettre de tester l'impact de ces algorithmes. Et donc, il faut travailler sur l'impact du biais de... Qu'est-ce que c'est qu'un biais d'information et sur l'impact de l'information sur les citoyens aujourd'hui. On en est simplement là, mais c'est un appel à tous les chercheurs qui ont envie de travailler sur ces sujets. Il faut montrer et travailler sur ces biais d'information.
La méthode scientifique, Nicolas Martin.
Vote for Mr. Rhythm, raise up your voice and vote for Mr. Rhythm, the people's choice. You'll be happy with them, take my advice and vote for Mr. Rhythm. I'm voting twice, everyone's a friend of his. His campaign slogan is, change your woe into a wally ho. Vote for Mr. Rhythm, let freedom ring, and soon we'll all be singing of the odd swing. Now when I say vote for Mr. Rhythm, you all know I mean Chick Webb. That's all my friends I came to state, but now listen to a noble candidate. Platform we're running on, we promise to swing it from now on. Fellow citizens, all right, follow me and vote for Mr. Rhythm Jamboree.
voilà une idée. Si vous ne savez pas encore pour qui vous allez voter dans les différentes primaires ou à l'élection prochaine, vous pouvez faire comme Ella Fitzgerald et voter pour Mr. Rhythm. Vous écoutez La Méthode Scientifique, il est 16h34. Nous parlons, nous sommes dans le cadre de cette journée spéciale sur France Culture, France Inventaire avant élection. Nous parlons de l'influence des réseaux sociaux et de nos comportements en ligne sur nos opinions politiques avec Christine Balaguer, ex-vice-présidente du Conseil du Numérique, et Benjamin Bayard, président de la Fédération des FAI associatifs et cofondateur de la Quadrature du Net. On a parlé dans la première partie des réseaux sociaux, de la question de ces algorithmes obscurs dont on ne connaît pas le fonctionnement et qui nous enferment dans ces bulles filtrantes. J'aimerais qu'on parle maintenant de l'utilisation massive par les candidats des données, du big data, des métadonnées qui renseignent aujourd'hui sur à peu près tous les éléments de la vie des citoyens électeurs, hein, centres d'intérêt, opinion politique, revenus, ethnie, et j'en passe au moins aux États-Unis. Alors une première question simplement, est-ce que, comme tout à l'heure, est-ce que la CNIL en France assure que ces niveaux d'information ne sont pas accessibles et sont protégés dans une certaine mesure ou pas, Christine Balaguer? Par rapport aux États-Unis, qui a vraiment, ils ont accès à tout. Hein. Je peux dire que le Help American Vote Act en 2002 a permis à n'importe qui d'avoir accès aux données électorales des citoyens, ce qui n'est encore pas tout à fait le cas en France, mais.
Oui, je crois que le cadre est très différent aux États-Unis et en France, et on ne peut pas du tout importer ce qui se fait aux États-Unis en termes de technique et ce qui se fait en France ou qui peut se faire en France. Le premier élément, c'est effectivement, il faut se poser la question de l'accès à la donnée. Aux États-Unis, la donnée est accessible, et aux États-Unis, les investissements publicitaires dans les campagnes électorales sont absolument colossaux, ce qui n'est pas le cas en France, puisque en France, les montants sont limités, et évidemment, toutes les techniques ne sont pas possibles. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi, j'ai travaillé beaucoup sur les réseaux sociaux. On a développé des outils de crawling, c'est-à-dire de collecte de données. Tout n'est pas ouvert, hein, c'est-à-dire que les données ouvertes sont des données publiques, ce sont des pages de marque, ce sont des pages institutionnelles. Mais ce que disent les individus sur leur propre mur, normalement, ne peut pas être collecté par les entreprises. Par contre, elles peuvent être éventuellement achetées. Hein, il y a des data brokers, elles peuvent être achetées et réutilisées derrière, mais en tout cas, elles ne sont pas accessibles directement, et les réseaux sociaux ferment de plus en plus les accès à des profils personnels sur des pages fermées. En revanche, ce qui est évidemment le métier de Facebook ou de Twitter, c'est de vendre de l'espace publicitaire.
Et donc, c'est utilisé. Et de valoriser ces données comme une donnée marchande.
C'est une donnée marchande, mais on n'a pas accès à la donnée, on a accès au ciblage, ce qui est un tout petit peu différent. Mm-hmm. C'est-à-dire, on est un annonceur, un politique devient un annonceur, et au même titre qu'un annonceur, va utiliser du ciblage publicitaire pour définir des cibles qui l'intéressent, donc des gens qui hésitent en termes de vote ou des profils très spécifiques sur lesquels il va envoyer des messages ciblés. Donc on est typiquement dans les mêmes mécanismes que des mécanismes publicitaires tout à fait classiques utilisés par n'importe quel annonceur qui a une stratégie aujourd'hui marketing sur les réseaux sociaux.
Le PDG hein, de l'une de ces startups, de ces deal brokers, quoi, comme vous l'avez appelé, Tom Bonny, a déclaré: auparavant, il y avait un mur entre les données de l'Internet et celles du monde réel. Nous avons réussi à le faire tomber. Aujourd'hui, chaque profil est composé de 1500 lignes d'informations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une manne en termes d'informations électorales pour n'importe quel candidat. Il suffit de se baisser pour ramasser cette manne, Madame Bayard, à votre avis?
Je ne sais pas si en France c'est complètement le cas, parce que effectivement il y a des règles très strictes. Avoir du profilage marketing, ça c'est le principe de la publicité en ligne. C'est-à-dire que le candidat qui veut atteindre une cible pour de la communication et qui va acheter de l'espace publicitaire en ligne pourra profiler. C'est-à-dire il pourra dire: moi je veux parler aux jeunes, aux urbains, aux vieux, aux retraités, aux hommes, aux femmes. Enfin, il pourra cibler. Mm-hmm. C'est un peu le phénomène de la publicité. Moi, je ne sais pas quantifier l'effet de cette publicité en matière électorale. Quand on en est à choisir son candidat comme on choisit une marque de yaourt, je pense qu'il y a un effet d'échec, et c'est que les candidats se valent.
Alors, j'ai un élément de réponse pour vous. Hein. Il y a, pareil, ces sociétés spécialistes, ces startups spécialisées dans le ciblage disent qu'une personne indécise peut-être a priori convaincu après avoir été exposé à 60 bannières statiques ou à 20 vidéos. C'est des chiffres à prendre au sérieux, à votre avis ?
Oui, probablement, mais une personne indécise, ça dépend de ce qu'on entend par indécis. Si c'est j'hésite entre le trotskisme et l'économie libérale, c'est une forme d'indécision peu probable. si c'est parmi les 5 candidats qui proposent de l'économie libérale complètement standard, je sais pas bien si je veux le petit, le grand, le maigre ou le gros, c'est pas grave. C'est une forme d'indécision très légère politiquement, l'influence est faible.
Oui, c'est une indécision qui peut propulser quelqu'un à des hautes responsabilités pour un mandat.
Enfin, c'est ce oui, qui... mais pour moi, ce qui est relativement intéressant, c'est de savoir si les grands mouvements politiques ont lieu ou pas. Que parmi les candidats sensiblement équivalents, qui sont tous dans le même mouvement politique, lequel arrivera en tête, pour lui c'est certainement très important, mais l'influence politique est plus faible. Savoir si la France devient un pays fasciste est par exemple une question très complexe, et je pense qu'on ne bascule pas de social-démocrate à fascisme juste parce qu'on a vu 60 bannières.
Mmh. Christine Balaguet, sur l'impact que peuvent avoir ces campagnes ciblées sur une population indécise qu'on arrive à délimiter, à définir de mieux en mieux en ligne.
Je pense que si vous interviewez des start-up qui font ce ciblage, ils ne vont pas vous dire autre chose que effectivement le ciblage fonctionne. Encore une fois, je préfère des recherches qui montrent de manière tout à fait neutre et objective l'impact que peut avoir une communication sur Facebook. Et donc, il y a eu un certain nombre de travaux de manipulation de l'opinion. Je vous en cite un. C'est un article qui est sorti en 2014 où, en fait, des chercheurs ont travaillé avec Facebook pour manipuler la manière dont les gens réagissaient à des messages. Donc, c'était 70 000 utilisateurs de Facebook divisés en deux. Pendant un certain temps, on envoyait des messages que positifs à la moitié de ces individus. On envoyait de l'autre côté des messages uniquement négatifs. Et ce dont se sont aperçus ces chercheurs, c'est que après cette phase d'expérimentation, pendant le temps suivant, eh bien, ceux qui avaient reçu des messages positifs n'étaient que positifs, ceux qui avaient reçu des messages négatifs n'étaient que négatifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure sur le plan électoral ? On peut en conclure que si, effectivement, on fait passer des messages très négatifs sur un candidat pendant un certain temps, eh bien, les individus vont être influencés dans leur opinion et vont être très, très négatifs vis-à-vis de ce candidat, comme à l'inverse, on fait passer des messages très positifs de ce candidat et ils vont être très, très positifs. Donc la manipulation de l'émotion, hein, de tout ce qui concerne ce que les anglo-saxons appellent mood, existe sur Facebook et a été montré scientifiquement. Et je partage tout à fait ce que disait Benjamin. Attention à ces mécanismes qui sont utilisés classiquement en publicité. Dans quel monde on va si ces mécanismes sont autant utilisés en politique et si on manipule l'opinion comme peuvent le montrer ce type de recherche.
Benjamin Bayard.
Oui, ça, pour moi, c'est vraiment l'élément le plus important. C'est-à-dire que le fait qu'on ne cherche plus à convaincre avec des arguments, mais qu'on cherche à convaincre avec des artifices de communication et des biais cognitifs classiques. Mmh. Et ça, je trouve ça très embêtant. Quand c'est pour essayer de me convaincre de changer de marque de yaourt, je trouve déjà que c'est pas terrible. Si c'est pour me manipuler et me convaincre de changer d'opinion politique et pour restructurer la société à mon insu, je trouve ça extrêmement inquiétant.
Mais parce que là, on parlait tout à l'heure, donc vous donniez l'exemple, Christine Balaguet, de cette étude qui a été faite sur un moteur de recherche. Prenons Google, hein, c'est le plus gros, 90% des requêtes en Europe. On voit que les auteurs de cette étude sur l'impact du classement montrent que quand les résultats arrivent en premier, donc ça s'appelle du référencement. Il suffit de payer pour que le site soit mieux référencé, qu'il apparaisse à peu près. Je résume à grands traits, mais vous me direz ce que vous en pensez. Donc si on additionne ça, c'est-à-dire l'importance du référentement et des résultats qui arrivent en premier ou qui sont parfois subventionnés, qui sont des messages publicitaires qui s'affichent en premier sur l'écran. Si on rajoute à ça la bulle filtrante, si on rajoute à ça les bannières statiques et la publicité ciblée, on arrive finalement, on s'en rend compte, vous le disiez Christine Balaguet, à des modifications d'un certain pourcentage de la population et de l'électorat. Or on sait que les résultats d'une élection, ça se joue à quelques dixièmes de points, qu'il ne faut pas grand-chose entre deux candidats pour faire basculer une élection. Ça donne du coup, et là je vais revenir sur mon point de vue et sur mon parti pris de la première partie, ça donne un pouvoir immense à ce que vous définissez comme étant de la communication politique électorale et de la manipulation d'opinion politique, Benjamin Bayard.
Oui, ça donne un poids immense, mais qui est un poids pour moi très similaire à celui qu'avait la télévision dans les années 80 ou 90, et qui avait cependant des comportements assez peu responsables. Ça donne un pouvoir très similaire à celui de la presse relativement classique, qui est en perte de vitesse. Et qui se comporte pas forcément de manière très responsable. Je veux dire,
Si ce n'est que là, on touche un public beaucoup plus large, beaucoup qui consomme tous ces réseaux et tous ces sites-là, sans avoir l'impression d'aller se renseigner ou d'aller chercher de l'actualité comme on peut aller chercher de l'actualité dans un journal papier.
Pour moi, le problème derrière n'apparaît pas qu'en politique, il apparaît en termes de responsabilité des plateformes. C'est-à-dire que le fait que les grands réseaux accumulent de l'information, puis s'en servent pour manipuler les gens, que ce soit de manière pour des campagnes électorales ou que ce soit sur d'autres sujets, je trouve ça malsain et dangereux. C'est un des effets pervers du fait de permettre à ces réseaux d'accumuler une quantité ahurissante d'informations sur tout le monde. Ça leur donne un pouvoir dont ils n'ont même pas conscience et auquel ils jouent un peu comme des apprentis sorciers. C'est-à-dire qu'ils vendent du profil marketing pour faire de la publicité sur des produits relativement traditionnels. Je pense pas qu'ils le fassent avec une intention diabolique et dans le but de détruire l'humanité, vous voyez. Il n'empêche qu'ils ont un pouvoir de manipulation très puissant et je suis pas du tout sûr qu'ils aient les règles d'éthique qui vont avec.
Christine Malaguet.
Oui, je voulais revenir sur l'étude dont vous parliez tout à l'heure, que j'ai présentée. C'est pas qu'une étude, hein, c'est vraiment une recherche qui a été publiée dans l'un des meilleurs journaux américains. Mmh. Et donc, c'est tout à fait scientifique et reconnu. Et cette étude...
C'est pour ça qu'on en parle ici, d'ailleurs.
Voilà, est allée encore plus loin, puisqu'elle elle a aussi mesuré l'effet du classement sur une vraie campagne, qui est une campagne en Inde, où elle a pu montrer aussi l'effet du classement, du filtrage d'informations sur les votes.
Et d'ailleurs, le résultat était moindre que sur le panel de personnes occidentales qui avaient subi l'étude la première fois. La variabilité
était moins
forte. VMP du vote manipulation power était de 10% en Inde seulement.
Exactement. Un autre cas, ce sont les réels, hein, ce sont les élections à Hong Kong où là aussi l'impact des plateformes a été montré. Il y a eu en Hong Kong une baisse de confiance extrêmement forte vis-à-vis des médias locaux, en particulier de la télé locale, et Facebook est devenu une source d'information, comme ça a été un peu le cas aux États-Unis pendant la campagne. Et donc, massivement, les candidats ont utilisé les réseaux pour communiquer, avec des nombres de vues en termes d'audience absolument considérables, et avec surtout un effet, et je trouve moi que cet effet-là, par contre, est intéressant, un effet sur les gens qui ne votaient pas et qui se sont mis à voter, notamment par ce que j'appelais tout à l'heure le voter mégaphone, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu des alertes sur ces réseaux en disant... effectivement, je partage l'information comme quoi j'ai voté, et il y a eu une influence pair à pair sur le vote des gens. Voilà. Donc moi, je pense que effectivement, toute la question de l'impact de ces plateformes, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'on joue sur des faibles différences aujourd'hui entre les candidats dans des sondages, par exemple, avant élection. Ça se joue à très peu de choses, et effectivement. On se pose la question aujourd'hui de l'impact de ces plateformes sur ce petit écart existant entre les deux candidats. Et c'est là-dessus que quand même on peut se poser la question de leur impact ou pas. Mais moi, je voudrais juste relativiser parce qu'effectivement, on parle beaucoup des plateformes de l'Internet. Et je pense que la question des algorithmes est une très grande question pour nos vies en tant que citoyennes dans les années à venir. C'est vraiment une question majeure. La question de la transparence de ces acteurs, la transparence des algorithmes de tous les acteurs. Mais ça ne remet pas non plus... je veux dire, il faut relativiser. On peut se poser la question de tous les médias. quel est l'impact de tous les médias, de la manière dont ils présentent l'information. On pourrait... imaginez la même réflexion sur la télé, sur la radio, sur la presse aujourd'hui. Effectivement, la manière dont on présente l'information, dont on filtre l'information, forcément a un impact.
Et ce sont des critiques récurrentes adressées à France Culture, entre autres, mais à n'importe quel autre type de média. On peut penser au journal de TF1 ou à tel article du Figaro ou à tel éditorial du Figaro ou de Libération. J'aimerais qu'on dise aussi un mot d'autre chose. Et du coup, parce qu'on a beaucoup parlé du lien descendant vers les citoyens et les électeurs, mais il y a aussi un lien ascendant dans le sens où aujourd'hui, toutes les personnalités politiques utilisent ces réseaux sociaux. Il y a des outils d'analyse, notamment pour forger leur thème de campagne, pour puiser l'inspiration et aller trouver les expressions qu'il faut employer pour faire mouche, pour essayer de se servir de ces bases de données-là comme du sondage en temps réel et en direct, Benjamin Bayard.
Pour moi, ça, c'est exactement ce qu'on faisait sur les enquêtes d'opinion il y a déjà 20 ou 30 ans. C'est pour moi quelque chose de très inquiétant, mais qui est pas lié à Internet, qui est très inquiétant côté politique. C'est-à-dire que l'homme politique qui a tellement peu d'opinion qu'il va chercher les trois mots-clés à la mode pour forger un programme qu'il n'appliquera pas, je trouve ça extraordinairement inquiétant, mais beaucoup plus inquiétant que l'emprise de Facebook ou de Google sur le monde. L'échec politique, pour moi, il est là. Il est même pas dans le fait de chercher à manipuler l'opinion, il est dans le fait de n'avoir plus d'opinion et de prendre des mots à la mode pour se faire élire. Ça m'inquiète beaucoup. Et pour moi, l'échec politique est là.
Christine Balaguer, là-dessus, oui, sur le fait que les trending topics sont devenus aujourd'hui le fil directeur de chartes de communication politique.
Oui, c'est rien de nouveau. Je dirais vraiment rien de nouveau. Tout ça est très ancien.
Le temps s'est raccourci énormément. C'est-à-dire que maintenant, on peut immédiatement, à une déclaration, voir le flot de commentaires qu'ils produisent et donc rectifier le tir ou confirmer la tendance, lancer des poissons pilotes comme ça, sans avoir besoin d'attendre des enquêtes longues et coûteuses, des sondages d'opinion.
Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les commentaires ne reflètent pas forcément la majorité des individus, donc se posent quand même des questions de représentativité. Les commentaires sont aussi filtrés, il faut même le savoir. Il y a le filtrage d'apparition du commentaire dans les réseaux. Moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est la question de la capacité d'agir croissante des individus, quelque part. Alors, qui pose des tas de problèmes aussi avec ces technologies, mais qui peut être aussi regardée d'un côté assez positif, c'est-à-dire que l'une des caractéristiques des réseaux sociaux et de l'Internet en général, c'est quand même cette capacité d'agir des individus qui est accrue. Et je crois qu'il y a une volonté d'engagement beaucoup plus forte qu'avant, due aussi au fait qu'il y a ces engagements grâce à ces technologies. On donne son opinion depuis plus de 10 ans sur des blogs, sur des forums, sur des réseaux sociaux, on échange. On a ce lien avec les politiques, comme je le disais tout à l'heure, qui est beaucoup plus restreint. On peut interpeller un ministre sur Twitter. Et donc, quelque part, on est beaucoup plus engagé qu'avant, et donc toutes les manifestations, on voit bien qu'aujourd'hui, pour mobiliser des individus, on va utiliser aussi des techniques qui relèvent de cet engagement, et donc tout ce qui concerne effectivement les programmes où on va aller demander aux citoyens ce qu'ils pensent de tel et tel sujet, donc une démarche un peu plus participative dans l'élaboration d'un programme, et tout à fait, dans l'air du temps. Et donc la question, c'est pas juste j'utilise tel ou tel mot en termes de trend. La question, c'est comment je fais pour mobiliser des votants, pour les convaincre des opinions que je défends. Comment j'utilise ces réseaux et ces technologies pour les engager et faire en sorte que tout le monde partage ce programme et même diffuse, soit un ambassadeur de ce programme. Et donc ces technologies, elles sont aussi tout à fait faites pour ça.
J'aimerais aussi qu'on dise un mot de ce programme, alors pas politique, de ce logiciel qui s'appelle Nation Builder, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est un logiciel qui a été utilisé en France. Alors pour le coup, c'est de la réalité, ça n'est pas encore quelque chose de lointain qui se passe outre-Atlantique, mais c'est bien quelque chose qui a été utilisé lors des dernières échéances électorales chez nous. C'est un logiciel qui permet, grâce à une cartographie détaillée du pays, grâce aux données électorales qui sont disponibles en accès libre à tout le monde. C'est du big data, c'est-à-dire que ça permet de planifier l'action militante au plus près, de voir quelles sont les poches d'abstention, quels sont les endroits où les votes ont été à tel ou tel pourcentage, etc., avec un ciblage extrêmement précis, hein, qui permet même de tester des mails sur des populations de militants, puis d'ensuite d'envoyer des mails différents à deux personnes qui vivent sous le même toit. On se souvient peut-être tous des tentatives lors des dernières échéances électorales nationales de messages téléphoniques personnalisé, bonjour, je suis tel candidat, j'ai un message pour toi, réponds à ce numéro ou va voir à cette adresse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, l'un et l'autre, que les partis politiques français ont pris la mesure de l'importance du big data, de ces réseaux, dans l'intégration à une campagne électorale plus large, Christine Balaguer ?
Je crois que l'une des limites fortes de ces types de mécaniques en France, ce sont les limites budgétaires. On n'a pas le droit de tout faire, alors qu'on peut tout faire dans des élections américaines. Et donc, on est limité en termes de budget. Le big data n'est pas gratuit, les technologies ne sont pas gratuites, l'emailing n'est pas gratuit. Et donc, me semble-t-il, ces technologies sont limitées. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je pense qu'on a passé le temps de l'efficacité publicitaire, et je partage ce que disait Benjamin tout à l'heure, je ne suis pas sûre de l'impact réel sur les comportements des votes de mécanismes purement publicitaires, c'est-à-dire de l'emailing, juste une photo d'un candidat, etc. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut vraiment travailler sur la question des programmes et comment je fais pour convaincre à partir du programme.
La Nation et donc, Builder, ça permet même de dire les militants, vous allez à telle adresse et vous sonnez à telle porte et pas à celle-là, enfin
voilà.
C'est vraiment
là où je
au maximum l'efficacité militante mais dans une campagne.
Là où je pense que ces systèmes sont efficaces, ça n'est pas dans du ciblage où on prend l'individu comme un pion et on va lui envoyer un message et on pense qu'il va réagir à ce message. C'est sur ce que je disais juste à l'instant, c'est-à-dire cette capacité d'engager les gens. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de candidats, comme Emmanuel Macron par exemple avec En Marche, ou qui ont une démarche qui ont une démarche particulièrement engageante. C'est le principe même. Et donc c'est une vision peut-être aussi de la politique différente entre les candidats. Hein. On voit qu'il y en a qui ont des programmes spécifiques, qui ont des programmes peut-être avec des idées qui sont pas forcément toutes modernes, etc. Et puis après, il y a des candidats qui sont plutôt dans ces démarches engageantes. Et me semble-t-il, ces questions de ciblage fonctionnent si ça engage derrière les individus. Les gens ont envie de faire, ils n'ont pas juste envie de recevoir un message qui leur dit votez pour un tel ou un tel. Ça ne fonctionne plus depuis bien longtemps.
Pour conclure, Benjamin Bayard, est-ce qu'il y a une façon de se soustraire à ce ciblage, à cette nouvelle communication politique via les réseaux sociaux, via...
Je ne suis pas sûr qu'on puisse s'y soustraire. Je ne sais même pas à quel point c'est souhaitable. C'est exactement ce que disait Christine Balaguer à l'instant, c'est-à-dire que si je reçois juste un message publicitaire, je pense qu'il aura un effet très faible, et que je l'ai reçu non ciblé ou ciblé changera presque rien dans ce domaine-là. Si un militant pense pouvoir venir retourner mon opinion avec des arguments et vient frapper à ma porte pour me parler, s'il parvient à retourner mon opinion, je ne sais pas si c'était bien ou pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas forcément grave que les militants aient appris que dans telle zone géographique, ils pouvaient aller discuter avec telle et telle personne pour essayer d'avoir telle et telle influence avec des argumentaires et en essayant d'engager les gens dans certaines luttes ou sur certains sujets. Ça me paraît pas nécessairement malsain. Ce que je trouve malsain, ce sont les effets de filtrage d'accès à l'information. Ça, c'est dangereux. Quand moi, je suis en train de consulter des informations, quelqu'un à ma place décide de filtrer sans que je comprenne le filtre. C'est-à-dire, quand je lis Luma, je sais quel est le filtre. Quand je regarde Facebook, je ne sais pas quel est le filtre. Ça, c'est plus embêtant. Ça, c'est vraiment embêtant. C'est de la manipulation passive.
Pour conclure, est-ce que vous partagez l'un et l'autre en un mot ce que dit Dominique Cardon, à savoir qu'à force de se conformer à la trace numérique des individus, on les réduit à un comportementalisme bête et régressif en prétendant donner aux individus uniquement ce qui leur convient dans une logique d'utilité et d'efficacité ? Christine Balaguer.
Absolument, et dans la plupart du cas, c'est pas forcément utile, et on peut se poser la question de l'efficacité. Et juste un mot pour conclure, la seule sortie possible, c'est d'éduquer les gens à ces technologies numériques, et ce qu'on a appelé, et on a eu plusieurs rapports du Conseil national du numérique sur ce sujet, la littératie numérique, il faut absolument que les gens soient au courant de comment fonctionnent ces technologies, et sachent les utiliser.
Merci beaucoup Christine Balaguet, merci Benjamin Bayard d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez comme chaque jour retrouver cette émission sur les réseaux sociaux, figurez-vous, sur notre fil Twitter @laméthodefc. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Céline Lozen, Léo Quentin, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfran, Elisabeth Miro à la réalisation, Bruno Gagnère Fontani à la technique et Thibaut Gouffier au droit d'auteur. Et la semaine prochaine, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le camarade Xavier Martinet qui reprend les commandes de La Méthode Scientifique pour une semaine et le programme va être riche comme un repas de fête. Lundi, il sera question des perturbateurs endocriniens, mardi de l'antimatière, mercredi de l'optogénétique, jeudi de la diplomatie scientifique et vendredi table ronde, actu dans un instant le magazine de la rédaction. La Méthode Scientifique, c'est lundi à 16h, moi je vous retrouve dans 10 jours, au matin et à 16h, et oui, double dose de Martin pour les fêtes, ça peut pas vous faire de mal, jusqu'à preuve du contraire.